J'ai commencé à écrire beaucoup en me répondant à mes propres questions. Puis une des questions que je m'étais demandé, c'est pourquoi, c'était en anglais, là, why am I unworthy of a good life? Puis là, je n'étais pas capable de répondre à cette question-là. C'était comme, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas le worthy en français, pas le mérite, c'est encore plus profond que ça. C'est comme, pourquoi est-ce que moi, je suis pas à la hauteur d'avoir une vie qui est bonne, puis qui est facile, puis qui a de l'argent? Pourquoi? Comme, qu'est-ce que j'ai fait de si mal que I'm not worthy? Puis, normalement, quand je me posais des questions, ça allait vraiment vite sur le papier. Il y a de quoi qui sortait tout de suite. Puis là, je regardais la feuille, puis je n'étais pas capable de trouver c'était quoi les raisons. C'est quoi la raison que moi, je suis une personne qui ne mérite pas une qualité de vie, ou que je mérite pas de l'aisance, ou je mérite pas, comme, qu'est-ce que j'ai fait de si mal? Puis j'ai eu une pensée, c'était « You are born worthy and nothing has changed. » Et là, j'ai commencé à vraiment me questionner sur l'argent, puis pourquoi est-ce que j'en avais pas? Puis ce que j'ai réalisé, c'est que pour moi, je ne méritais pas d'être riche parce que j'étais pas assez tout ce que j'étais supposée d'être pour être riche.
Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 95.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien comme d'habitude. Je suis toujours heureuse de vous retrouver les lundis pour notre rendez-vous hebdomadaire où on parle d'ambition, on parle de succès, on parle de mindset, on parle de qu'est-ce qui peut nous amener justement à vivre cette vie qu'on rêve pour nous-mêmes, à laisser cette trace, cet impact, cette marque qu'on veut laisser dans le monde et comment, dans le fond, est-ce qu'on peut le faire selon nos termes, selon nos conditions, sans s'oublier en chemin. Et aujourd'hui, une entrevue spéciale. En fait, toutes les entrevues sur l'ambition au féminin sont spéciales parce que c'est toujours des représentantes de ce que moi je considère être le succès à leur façon, des femmes qui changent le monde aussi à leur façon et qui laissent leur marque d'une façon très, très unique. Et aujourd'hui, ben, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur, j'ai le privilège de recevoir Melanie Anne Layer, qui est la fondatrice de la marque Alpha Femme, qui, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite fortement à aller suivre sur Instagram ce que Melanie Anne Layer ainsi que Alpha Femme font. C'est extrêmement inspirant et c'est une façon très nouvelle et innovante, je dirais, de faire du marketing qui est à la jonction entre justement le développement personnel, tout le discours autour des énergies, mais aussi une assomption de vraiment assumer à fond son désir de puissance en tant que femme. Et ici, je parle de puissance autant au niveau de puissance financière que de leadership, que de leadership de soi aussi, hein, parce qu'il y a le leadership des autres, mais il y a le leadership de soi, et aussi d'impact envers les autres. Et puis, si vous êtes ici au Québec, vous avez peut-être entendu parler récemment de Melanie Anne Layer parce que elle a été dans les journaux pour avoir acheté une maison à 5 millions. Et ici au Québec, quand on ne connaît pas exactement tous les détails de comment une personne s'est procuré un bien comme ça, ben ça peut créer des remous au sein de la population, surtout que Melanie Anne Layer travaille en tant que coach et que le monde du coaching, du développement personnel est peut-être un peu plus obscur ou pour beaucoup de Québécois, alors que, bon, il y a d'autres, par exemple, aux États-Unis, tu sais, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus normalisé, tandis qu'ici, ça avait créé un remous, et à travers ce remous, tu sais, des articles plus ou moins flatteurs de Mélanie Anne qui ont fait que, pour moi, ça avait été intéressant comment elle a géré auprès de sa communauté ses relations publiques-là, puis comment elle a passé au travers de ce qui est pour plusieurs le pire cauchemar de la visibilité, le pire cauchemar du succès, qui est de se faire critiquer publiquement, qui est de se faire délégitimiser publiquement et de devoir se justifier justement par rapport à notre valeur, par rapport à ce qu'on a réussi à créer dans le monde avec notre entreprise ou en tant que succès, en tant que femme. Et je trouvais que les enjeux à travers lesquels qu'elle avait passé dans les derniers mois/semaines et qui était couplé aussi avec une célébration de son succès. C'était une belle façon nuancée d'apporter, dans le fond, c'est quoi de réussir quand on est une femme, mais pas juste réussir, là, mais on parle de réussir à très, très haut niveau. Alors, qui est Mélanie Anne Layer, si vous la connaissez pas? Elle a une approche très unique au leadership féminin et aux énergétiques de l'abondance, de l'argent, des finances. Mais ce qui est important, puis on en parle un petit peu dans l'entrevue, c'est que, bon, elle avait passé à travers des périodes assez difficiles qui avaient commencé par une faillite et dans lesquelles elle s'est ramassée à dormir dans sa voiture. Et c'est là qu'elle a découvert un peu le coaching de vie ou le life coaching, où elle avait commencé à opérer en tant que coach alors qu'elle était justement dans le siège conducteur de sa Honda Civic. Et ça, on date ici de 2013. Alors depuis là, il y a eu toute une évolution chez Mélanie, de la croissance autant personnelle que professionnelle, depuis la création de Alpha Femme en 2017. Et depuis, ben sa marque a généré plus de 20 millions de dollars avec quelque chose comme 600% de croissance d'année en année en année, de façon consistante, tu sais. Là, ici, on parle de mois qui génèrent à eux seuls des millions de dollars, et ça, c'est depuis au moins un an, là, depuis novembre 2020. Même que récemment, j'écoutais même ses lives, elle avait dépassé la journée à 1 million de dollars. Il y avait eu un lancement. En tout cas, c'est très, très intéressant à voir aller. Alors, toute cette transformation que Mélanie a traversée, ben, c'est vraiment un témoignage de son travail et de ce qu'elle enseigne aux femmes à travers le monde qui sont vraiment au niveau de brands plus de luxe, de brands qui sont très, très développés, d'entrepreneurs qui sont très, très développés. Alors, tu sais, on parle ici vraiment genre d'une façon de faire du marketing qui est révolutionnaire, d'une façon qui est d'enseigner, qui est nouvelle, qui est innovante. Et ça, c'est sans site web, sans chaîne YouTube virale, ou sans tous les appareils, dans le fond, traditionnels de visibilité qu'on aurait pu croire dans une machine qui peut générer autant d'argent. Alors, ce que je voulais vraiment discuter aussi avec Mélanie, puis quelque chose qui est vraiment ressorti dans cette entrevue, puis m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir personnellement, c'est cette notion aussi qu'on a par rapport à l'argent, par rapport au luxe et par rapport au désir d'en avoir plus. Et c'est cette tension entre j'en ai assez ou j'en veux plus, cette tension de vouloir vraiment s'asseoir dans nos ambitions puis les accepter pour ce qu'elles sont et de faire le travail pour y arriver, qui est vraiment au cœur de notre conversation et qui, je vous encourage fortement à l'écouter du début à la fin parce que il y a eu plusieurs shifts à mon niveau aussi en termes d'état d'esprit, en termes de mindset, en termes de compréhension aussi des dynamiques qui viennent autour de ces choses qui peuvent être intimidantes pour plusieurs. Puis on va aussi en parler, hein. Ça peut être très intimidant de penser à de l'argent à ce niveau-là, de penser à réussir à ce niveau-là, de penser à se rendre à un stade où on est à la tête d'une communauté aussi grosse. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous laisse avec Mélanie, dont la marque, encore une fois, tu sais, a des clients qui, elle aussi, génère dans les 6-7 chiffres. Donc, je vous invite aussi à aller regarder ce qu'elle fait sur son Instagram, surtout Alpha Femme ou Mélanie Anne Layer. Et vous allez voir, bon, il y a un groupe Facebook aussi où vous pouvez assister à certains des lives de Mélanie et en savoir un petit peu plus sur son univers. Naturellement, je mets tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez en savoir plus sur elle et sur son entreprise. Sur ce, je vous souhaite vraiment une super belle écoute et j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en aurez pensé. Taguez-nous sur Instagram si vous écoutez ce podcast pour qu'on sache que c'est dans vos oreilles et nous dire, dans le fond, qu'est-ce que vous en avez ressorti. Belle écoute à vous et à très bientôt. Bonjour Mélanie, comment est-ce que tu vas? Je suis tellement heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Oh my gosh, ça va tellement bien puis je suis vraiment contente d'être ici avec toi. Merci de m'avoir invitée.
Oui, merci. T'es en vacances en ce moment? En vacances ou t'sais, du moins, t'es dans un hôtel, je le sais. Donc, tu profites de la vie ces temps-ci, j'ai l'impression.
Ben, c'est toujours un mélange business de plaisir. On est à Toronto en ce moment, mais c'est un bon moment en ce moment.
Good. Alors, j'aime toujours poser comme première question à mes invités, question de briser la glace, une question un peu random, puis celle que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite?
Oh my God, j'avais tellement de rêves quand j'étais petite. Je rêvais d'être chanteuse.
Ah ouais?
Ouais, ça aurait été quelque chose de vraiment extraordinaire, mais j'ai aussi eu un moment où je voulais être criminologue, puis mon père était comme, fais pas ça.
Pourquoi?
Tu vas voir plein de choses pas belles dans ta vie, c'est pas beau, fais pas ça.
Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Je suis super curieuse.
Mais j'ai toujours été très fascinée par les êtres humains. Puis je pense que les scènes dans les films où les gens étaient comme dans la pièce avec la personne en train d'essayer de trouver c'était quoi la vérité, là, ça, je trouvais ça vraiment cool. J'ai toujours pensé que je serais bonne à faire ça.
Rentrer comme un peu dans les intrigues puis les histoires des gens.
Oui, comme de découvrir c'est quoi la vraie histoire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, comme j'aurais aimé ça faire ça. Mais maintenant, je réalise aussi que ça aurait été une vie plus difficile de voir. J'aurais vu beaucoup de choses qui sont pas très belles. J'aurais entendu beaucoup de choses qui sont pas très belles. Ça aurait été pas vraiment des belles choses à voir ou à entendre. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça aurait pu avoir comme impact sur ma vie. Je suis heureuse de comment les choses se sont déroulées.
Ouais, vraiment. Ça a été un autre tournant dans ta vie. Puis, je me demande, tu sais, est-ce que pour toi, il y a comme une espèce de notion de justice aussi qui t'attirait dans ce genre de choses-là?
Oui, bon point, oui. Probablement, oui, de pouvoir vraiment faire en sorte que les gens qui ont fait des choses qui n'étaient pas supposées se fassent trouver. Puis oui, absolument, oui, t'as raison.
Oui, puis j'ai l'impression que dans tout ce que tu partages aujourd'hui, tu sais, il y a une grande notion d'intégrité puis de vraiment comme... pas « right the wrongs », mais tu sais, un peu genre... se montrer tel qu'on est. Puis ça, je trouve ça intéressant aussi avec tout ce qui est au niveau psychologie puis ton intérêt pour ça. Donc, j'ai lu, il y a un article qui est sorti récemment dans Narcity où tu décris un peu ton parcours, puis je vais le mettre dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent en savoir un peu plus sur vraiment comme toute l'évolution de ton entreprise puis un peu comment t'en es arrivé à lancer toute cette entreprise de coaching que tu as en ce moment. Et à un moment, tu sais, tu parles vraiment que tu étais rock bottom, tu sais, comme tu dormais dans ton auto, puis tu parles même de ta faillite. Puis la raison pourquoi je voulais vraiment qu'on discute, toi et moi, aujourd'hui sur l'ambition féminine, c'était pour parler aussi de cette grande réconciliation que tu as eue avec l'argent. Puis je voulais te poser la question, justement, pour commencer, ça a été quoi, cette grande réconciliation-là? Comment ça s'est passé le moment où t'es passé de « ok, genre, ça marche pas, les choses, tu sais, tombent pas bien dans ma vie en ce moment », puis ce moment d'expansion qui a eu lieu?
J'ai eu une pensée qui m'a vraiment envoyée dans une direction de... Il est arrivé quelque chose dans ce moment-là de ma vie quand j'ai vraiment tout perdu. C'est comme j'ai développé on dirait une deuxième voix, une deuxième conscience qui me posait des questions que je me parlais beaucoup. Tu sais. Je me parlais puis je faisais beaucoup par écrit. Donc, j'avais des questions qui rentraient dans ma tête, des questions que je ne m'étais jamais posées. j'ai commencé à écrire beaucoup en me répondant à mes propres questions. Puis une des questions que je m'étais demandé, c'est pourquoi, c'était en anglais, là, why am I unworthy of a good life?
Mm.
Puis là, je n'étais pas capable de répondre à cette question-là.
Mm-hmm.
C'était comme, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas le worthy en français, c'est pas le mérite, c'est encore plus profond que ça. C'est comme, pourquoi est-ce que moi, je suis pas à la hauteur d'avoir une vie qui est bonne, puis qui est facile, puis qui a de l'argent? Pourquoi? Comme, qu'est-ce que j'ai fait de si mal que mm-hmm. I'm not worthy? Puis, normalement, quand je me posais des questions, ça allait vraiment vite sur le papier. Il y a de quoi qui sortait tout de suite. Puis là, je regardais la feuille, puis je n'étais pas capable de trouver c'était quoi les raisons. C'est quoi la raison que moi, je suis une personne qui ne mérite pas une qualité de vie ou que je ne mérite pas de l'aisance ou je ne mérite pas comme qu'est-ce que j'ai fait de si mal. Puis j'ai eu une pensée, c'était « You are born worthy and nothing has changed.
Mm. » Mm-hmm.
Et là, j'ai commencé à vraiment me questionner sur l'argent, puis pourquoi est-ce que j'en avais pas. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que pour moi, je ne méritais pas d'être riche parce que j'étais pas assez tout ce que j'étais supposée d'être pour être riche. Comme je me souviens combien de fois dans ma vie, je me suis fait dire que si j'avais pas une éducation traditionnelle, j'allais vraiment souffrir financièrement dans ma vie, que j'allais avoir une vie qui est très dure. Comme j'avais de la difficulté à l'école, j'étais pas capable de me concentrer. Mes examens, la minute que l'examen se présentait devant moi, j'oubliais tout ce que j'étais supposée faire. Je me souvenais plus de rien. J'étais mm-hmm. pas capable de le faire. J'oubliais. Même si je comprenais tout aussitôt avec la pression, aussitôt que c'était le temps de répondre aux questions, je me souvenais plus de rien. Puis je me souviens combien de conversations que j'ai eues. C'était comme, tu comprends pas. Si tu fais pas un effort, tu vas pas avoir d'éducation. Puis si t'as pas d'éducation, tu vas souffrir. Ça va être mauvais, la vie, là. Tu vas jamais avoir d'argent. Tes enfants auront pas ce qu'ils ont besoin dans la vie. Comme c'était tellement de pression pour quelque chose que j'étais pas capable de faire que j'ai juste décidé que, malheureusement, si j'étais pas capable de faire ça, alors j'allais jamais avoir d'argent.
Mm-hmm.
Mais la pensée que j'ai eue, « You were born worthy and nothing has changed », ça m'a donné une autre pensée. Puis ce que ça m'a fait réaliser, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sur la planète qui sont comme pas vraiment des bonnes personnes et qui ont énormément d'argent. Puis je me suis dit, si c'est vraiment vrai qu'il faut être exactement d'une telle façon pour avoir de l'argent, comment ça qu'il y a tellement de types de personnes différentes? Des bonnes personnes, des comme pas bonnes personnes, des personnes super éduquées, des personnes pas super éduquées. Pourquoi est-ce que j'ai des amis qui sont allés à l'école pendant des années qui n'ont encore pas de job? Puis pourquoi est-ce que les acteurs qui sont multimillionnaires? Comme là, tout à coup, j'ai commencé à vraiment réfléchir à mon affaire. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que si je déconnectais mon besoin d'être worthy et le désir de faire de l'argent, si je les déconnectais, si je déconnectais mm-hmm. le mérite, mais je pouvais être les deux. Je pouvais mériter une belle vie et je pouvais avoir de l'argent. Ça n'avait pas besoin d'être connecté, que j'ai besoin de tout faire ce que les gens disent que j'ai besoin de faire pour le mériter. Donc, quand j'ai déconnecté ces deux choses-là, je veux être une bonne personne, je veux être une bonne être humain, je veux me sentir que je mérite des belles choses dans la vie, et aussi, je veux que ce soit facile, puis je veux avoir le droit d'être successful. Et ma vie a commencé à changer, parce que ce que j'ai commencé à voir, c'est que c'est moi qui créais un obstacle énorme qui était le jour que je vais me sentir à la hauteur, je vais avoir le droit d'avoir de l'argent. Mais si je me sens pas à la hauteur, je peux pas en avoir.
Mm-hmm.
Je me suis comme mm-hmm. emprisonnée dans ça parce que je savais pas comment me donner le droit. Je savais pas comment décider que j'étais à la hauteur. Je savais pas comment changer ça, cette fréquence-là à l'intérieur de moi. Mais quand j'ai décidé que j'avais pas besoin de l'avoir, tout a commencé à changer. Je mérite une belle vie, point. Puis j'ai commencé à me traiter comme une personne que j'aime. Parce que jusqu'à ce point-là dans ma vie, je me traitais comme une personne que je chicanais plus qu'autre chose, une personne que j'avais besoin de punir parce que j'avais pas fait les choses comme il faut. J'étais constamment pas contente avec moi, constamment en train de me juger, de me pousser, de me mettre dans des situations difficiles. Là, j'ai commencé à me traiter comme une personne que j'aime. Comment est-ce que je traiterais mon ami dans une situation comme ça? Qu'est-ce que je lui dirais? Puis j'ai juste commencé à travailler sur moi à l'interne. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que quand on enlève la pression de qui on pense qu'on doit être, il y a quelqu'un qui est là, qui est déjà assez. Cette personne-là est capable d'attirer des choses avec beaucoup plus de facilité que celle qu'on essaie de contrôler et puis de changer. Comme mm-hmm. notre vibration telle qu'elle, sans être changée, elle attire des miracles. Mais on n'a pas vraiment été enseigné comment utiliser cette puissance-là intérieure. On essaie toujours de tout changer.
T'as-tu l'impression que parce que t'étais une femme aussi, puis tu sais, là, je réfléchis aussi, moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont le syndrome de la bonne élève, tu sais, puis que justement, ont besoin de cette validation externe-là pour se sentir en tant que femme qu'on est, on est en train de faire la bonne chose parce qu'il y a tellement de monde à l'extérieur qui nous disent « ben il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu agisses comme ci, il faut que tu agisses comme ça, que tu fasses les diplômes, que tu sois bonne à l'école, etc., etc. » As-tu fait la corrélation avec ton genre ou pas à ce moment-là?
Je t'avouerais que moi, jusqu'à ce point-là, d'être une femme, ça n'avait pas été le plus grand de mes problèmes.
Mm-hmm.
Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que c'est quand une femme fait aussi bien qu'un homme, mais quand même l'homme a plus de validité, c'est là que ça devient plus flagrant. Mais là, j'étais juste pas à la hauteur nulle part, fait que ça ne change rien que je sois une femme. J'aurais été une femme, j'aurais été un homme, j'aurais été médiocre, peu importe. Donc, à ce point-là, dans ma vie, j'étais juste un être humain avec un potentiel peut-être bon, mais qui faisait tout pas bon. Donc, ça ne dérangeait pas que je sois un homme ou une femme à ce moment-là. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que j'ai toujours voulu, pour d'être une fille, pas une femme, mais d'être une fille, j'ai toujours voulu être la bonne fille dans ma famille. Moi, je suis la grande sœur. Puis les règlements étaient toujours très différents pour moi. Moi, je devais bien agir, je devais savoir « I knew better, il faut que tu fasses comme ça, toi, t'es la grande sœur, il faut que t'aides, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses... » J'avais une liste longue comme le bras de qui j'avais besoin d'être pour... moi, être à la hauteur.
Mm-hmm.
Mon frère et ma sœur, eux, c'était très différent. Ma petite sœur, c'est la toute petite. Le petit gars, c'est le petit gars. Mais moi, j'avais une liste de choses que je devais faire comme il faut pour être aimée. Puis c'est là que ça a commencé, moi, d'avoir besoin d'être la bonne fille puis de penser que si je fais les choses comme on veut de moi, là, je vais être bien traitée, là, je vais être correcte, là, je mérite. Parce que c'était vraiment avec le mérite aussi, la façon, quand on est jeune, c'est que quand tu fais des bonnes choses, tu mérites des bonnes choses. Quand tu fais pas des bonnes choses, tu mérites pas les bonnes choses. Donc, j'ai été beaucoup conditionnée comme ça, surtout en tant que grande sœur. Quand je fais ce qu'on me dit de faire, puis que j'écoute les règlements, puis que je fais bien, ben, j'ai les bonnes choses. Puis sinon, ben ma vie, c'est de la misère. Donc, je vais comme répliquer ça avec l'univers.
Oui, parce que c'est dans la transaction, hein, tu restes dans cette idée que, tu sais, c'est exactement ça, c'est une transaction dans laquelle une façon d'être va t'attirer un certain amour, argent, validation, alors que toi, ton gros shift, ça a été de réfléchir que non, c'est comme déjà internement dans moi tout ça.
100%. Puis l'autre chose avec ça que j'ai réalisé, c'est que on fait beaucoup ça. Les enfants, on manifeste pas avec l'univers, on manifeste à travers nos parents. Comme c'est nos parents qui disent oui ou non. C'est pas notre capacité de manifester avec l'univers, c'est notre façon de manifester à travers nos parents puis leur capacité de manifester avec l'univers. Donc, quand on se fait pas enseigner vraiment comment ça fonctionne d'être une personne qui est en charge de sa vie, mais on traite l'univers comme on traitait nos parents, comme on traitait nos gardiens, comme on traitait nos professeurs à l'école, qui sont « j'essaie de suivre des règlements pour me faire valider, pour me faire donner ce que je demande, puis si je ne l'ai pas, c'est parce que je suis pas assez bonne ou je ne suis pas à la hauteur. » Donc, c'est d'essayer de recréer une nouvelle relation avec l'univers qui est « je suis le maître », qui est quelque chose qu'on n'a pas en tant qu'enfant, tu n'es pas le maître, c'est toi, tu demandes la permission, puis si tu es gentil, tu te fais dire oui des fois, puis il faut que tu acceptes « non ». Mais après ça, on est des grandes personnes avec l'univers au bout des doigts, mais on n'a aucune idée comment s'en servir puisqu'on essaie de traiter l'univers comme on traitait nos parents. Ça ne fonctionne pas.
C'est super intéressant. Puis aussi, tu sais, ça mène justement à la conversation aussi. Ici au Québec, il y a beaucoup de cette... puis bon, j'ai des personnes qui nous écoutent qui sont en France, là. En France, je pense qu'il y a une autre relation aussi avec l'autorité. Mais cette idée que tu dois suivre, tu sais, que tu dois faire comme les autres, que tu dois... rentrer en ligne dans un sens. Puis ça, je pense que c'est extrêmement difficile pour beaucoup d'âmes créatives de trouver, ou tu sais, des gens qui ont des parcours atypiques ou qui ont comme plusieurs potentiels ou des choses comme ça, de trouver comment se sortir de cet impératif-là de, encore une fois, tu sais, devoir pas faire de vagues.
Mais ce que j'ai vu, moi, à propos du Québec, maintenant que j'ai voyagé beaucoup dans le monde, le peuple québécois, c'est un peuple qui il travaille fort puis il est fier.
Mm-hmm.
Donc, quand il y a quelqu'un qui sort de nulle part avec quelque chose qui n'a pas l'air d'avoir été un travail qui est fort, c'est comme une mentalité de... t'as fait ça, ça doit pas être comme il faut. Tu peux pas avoir fait ça comme il faut parce que c'est pas comme ça qu'on fait ici. Il y a comme une façon de faire si on veut être accepté.
Mm-hmm.
Puis une des choses, je pense, qui est le plus épeurante en tant que Québécoise, c'est de décider que ça me dérange pas de me faire accepter par les Québécois, comme j'ai pas besoin de votre approbation. Moi, je vais le faire comme je le fais parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes comme moi au Québec qui sont entrepreneurs dans l'âme puis que ça fonctionne pas. Le vieux paradigme, si on veut, ça fonctionne pas. On l'a pas. Donc moi, je vais pas vivre ma vie moins que je suis pour faire plaisir au peuple québécois, mais je sais qu'en étant tout ce que j'ai voulu être, il y a beaucoup du peuple québécois qui va se reconnaître dans qui je suis puis on va créer une autre dimension. Je fais pas ça pour fâcher personne, mais je ne vais pas vivre ma vie pour faire plaisir à personne non plus, comme on peut changer tout ça. Puis le plus que je me fais découvrir au Québec maintenant, parce que pendant longtemps, comme je dis, je ne fais pas ça pour fâcher personne. Moi, si je ne rentre pas dans le moule ici, je vais m'en aller ailleurs, je ne vais pas me battre contre personne, ça ne me dérange pas. Je vais juste aller faire mes choses ailleurs. Si ça vous dérange ici, je vais m'en aller. Donc, j'ai été très underground, the invisible coach. Les gens au Québec ne savaient pas qui je suis, puis c'est une des plus grandes choses qui les dérange justement maintenant avec mon apparition soudaine dans les journaux puis tout ça. C'est qui cette fille-là? On ne la connaît pas. Mais non, vous ne me connaissez pas parce que comme maintenant que je vois la vibe, c'est quoi de se faire connaître? Est-ce que vous êtes vraiment surpris que vous ne me connaissez pas? T'sais, c'est pas,
ben oui.
C'est comme c'est, on ne gagne pas nécessairement à se faire connaître, à être comme moi ici. Mais maintenant, je réalise que c'est pas grave, mais regarde combien il y en a de Québécoises entrepreneurs, des Québécois entrepreneurs. Là, tout à coup, je suis comme, mon Dieu, j'avais tellement peur de ceux qui ne me comprendraient pas que j'ai oublié tous ceux qui sont pareils comme moi. Quand de voir une Québécoise qui réussit, c'est comme, hey, yay! Yeah! On veut en parler parce que moi aussi, je suis proche, puis moi aussi, je fais des bonnes choses, puis ça me donne la permission d'en parler, puis je veux en jaser. Puis là, je vois de plus en plus d'entrepreneurs québécois qui font des choses extraordinaires que j'aurais peut-être jamais remarquées si je ne m'étais pas ouvert au public du Québec. Donc, en même temps, c'est de se dire, on peut se cacher pour pas se chicaner, mais en même temps, ça nous aide pas à trouver les personnes comme nous qui ont envie de jaser puis de dire, hey, moi aussi, je suis en train de créer ça puis je pense comme toi. Puis, donc, j'ai beaucoup moins peur maintenant, mais au début, j'avais tellement peur de me faire mal, de me faire blesser, comme j'ai vu comment les Québécois qui sont traditionnels ont traité certaines de leurs personnes qui ont bien réussi au Québec, puis ça n'a pas été beau, là, comment on traitait Céline Dion, c'est pas une expérience que je voulais vivre, d'être célèbre ou connue au Québec. Ça, c'était pas quelque chose que je voulais, parce que je voulais pas tenir l'autre côté de la médaille, le côté où je me fais mal compris, où ce que je suis pas compris, le côté où ce que je suis pas à la hauteur pour ci ou pour ça, où je suis jugée pour ci ou pour ça, j'avais peur. Mais je réalise que partout dans le monde, il y a ça de toute façon. Donc, je suis devenue plus forte à l'intérieur de moi. Puis s'il y a des gens qui ne sont pas contents avec mon succès, je le comprends. Je comprends parce que j'ai déjà été dans une situation où j'en avais pas d'argent. Puis je ne sais pas comment je me serais sentie à ce moment-là d'entendre une histoire d'une fille qui disparaît puis tout à coup qui apparaît avec un énorme succès. Est-ce que ça m'aurait dérangé quand j'étais pauvre, peut-être? Est-ce que ça m'aurait dérangé quand j'essayais de créer une vie pour moi puis que ça fonctionnait pas exactement comme je voulais, peut-être? Est-ce que ça m'aurait dérangé si ma vie fonctionnait, mais j'avais tout donné, des choses que j'avais peut-être même pas envie de donner, que j'avais travaillé à un point mal aligné, si on veut, là, trop d'heures, tout donné pour avoir ce que j'ai, puis quelqu'un le fait plus facile que moi, même si j'aime ma vie, peut-être que ça m'aurait dérangé, je le sais pas. Donc, j'ai comme arrêté de juger le jugement, puis je me suis dit, si le monde n'aime pas, mais ils vont juste, ça va durer quelques minutes, ils vont être fâchés après moi, puis après ça, ils parleront juste plus jamais de moi, puis ils vont m'oublier, je suis rien, là. Je suis personne pour ces personnes-là. Mais pour ceux qui cherchent de l'inspiration, mais là, j'ai ma place. Donc, ces gens-là vont pas m'oublier, puis même je vais les aider, puis pour les autres, ils vont juste m'oublier. Je suis juste une personne de qui jaser un bon matin quand le journal sort, mais ça dure pas longtemps pour les personnes qui sont pas attachées aux choses auxquelles je parle.
Non, puis aussi, tu deviens aussi un catalyste pour des réflexions de gens qui seraient peut-être aussi « pourquoi ça me rend inconfortable » de voir ce genre de choses-là. Puis je pense que c'est ça que ça a ouvert comme conversation. Puis plus on voit des femmes qui réussissent à des hauts niveaux, plus on peut... puis tu sais, que ce soit homme-femme, mais surtout des femmes, parce que je pense que ça dérange aussi dans plusieurs sphères, de pouvoir se poser la question « comment ça me fait sentir? Est-ce que je sens de la jalousie? Est-ce que je sens de l'envie? Est-ce que je sens genre de l'insatisfaction par rapport à ma vie? » Tu sais, puis ces questions-là sont importantes quand on définit notre propre succès aussi, je pense.
Tu as vraiment raison, c'est bien dit.
Puis, ce que je trouve vraiment intéressant dans ton brand aussi, c'est ton assumption, genre unapologetic, genre tu sais, comme sans aucune excuse, du luxe. Puis ça, je trouve que c'est comme aller à un autre niveau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler du mindset de l'argent, il y a beaucoup de gens qui vont parler genre de succès exponentiel, puis de développement personnel, mais toi, comme t'assumes vraiment le côté luxe de ton brand, puis j'ai l'impression que c'est encore plus aller genre à un degré qui peut aller déranger des gens parce que justement, le luxe a cette vision de l'inutile, tu sais.
Mm-hmm.
Puis j'aurais vraiment aimé t'entendre là-dessus de, tu sais, encore une fois, tantôt on a parlé genre de ta réconciliation avec l'argent, mais est-ce que t'as dû faire aussi une réconciliation avec le luxe puis avec ton désir du luxe ou tu sais, comme de t'sais, comment dans ta vie, puis après ça, que c'est devenu dans ton message, ce mot, ce concept?
Ben, pour moi, le luxe, ça a changé ma vie, parce que ce que j'ai réalisé, j'ai jamais été une personne qui avait du luxe, premièrement, c'était pas moi. J'ai jamais acheté rien de marque dans ma vie, j'ai jamais eu des lunettes de soleil Louis Vuitton, je trouvais ça complètement ridicule. À quoi ça me sert d'avoir une paire de lunettes à 500$, je vais les perdre. Une sacoche à des 1000$, est-ce que vous êtes fous? Comme je mets du maquillage dans ma sacoche, elle va être toute sale, je mets plein d'affaires. Comme c'est impossible, je vais jamais avoir ça, je vais jamais être ce genre de personne-là. Puis je me souviens, j'avais emmené ma sœur en Europe une année, quand la compagnie, elle a commencé à vraiment bien aller, puis on était à Paris, puis les magasins, elle était folle de ça. Comme on est rentré chez Chanel, je pensais qu'elle allait perdre connaissance. J'ai acheté des nouvelles lunettes de soleil Chanel, puis oh my God, elle était tellement contente, puis elle était comme ça t'en prend, mais j'ai pas besoin de ça, moi ça me fait pas ce que ça te fait à toi. Puis elle essayait de m'expliquer, please, il faut, on est à Paris, il faut que tu t'achètes quelque chose, un foulard, des lunettes, quelque chose, s'il vous plaît. Ça a fini, je me suis acheté des lunettes, un foulard, puis une sacoche. Ça m'a pas tuée, mais j'étais vraiment pas motivée. J'étais comme, c'était tellement beaucoup d'argent pour rien, je vois pas pourquoi j'ai acheté ça, ça n'a rien changé à ma vie. Mais j'ai réalisé quelque chose en développant ma relation que j'ai maintenant avec l'argent, puis c'est que il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs business qui sont très cérébrales. Je ne suis pas cet entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui sont artistiques. Ça, c'est moi. Le luxe, c'est de l'or. Si on pense aux gens qui sont le plus dans le luxe, c'est genre les rock stars, les célébrités, c'est eux le luxe, là. Mais ça, c'est les artistes. Donc, il y a des entrepreneurs business logiques, il y a des entrepreneurs artistes d'affaires. Moi, je suis une artiste d'affaires. Quand c'est beau autour de moi, je suis inspirée. Quand je me sens importante, qu'on s'occupe de moi, que je suis bien traitée, je vais 150 000 fois plus loin. Le respect, le service, c'est à son apogée, comme ça change ma vie, ça change mon expérience de ma vie. Je suis une personne qui, dans un environnement de luxe, je deviens extrêmement heureuse. Puis, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé, mais ce qui est le plus beau pour moi du luxe, ce que je trouve le plus beau, c'est le service à la clientèle du luxe. Quand on est allé à Paris acheter des lunettes de soleil, la femme, elle m'a assis à une petite chaise, elle m'a amené un verre de champagne, puis un miroir, puis elle m'a amené toutes les lunettes. Je buvais du champagne en choisissant mes lunettes. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi cette expérience-là? De traiter des gens comme ce que tu es en train de faire dans ta vie en ce moment, c'est important. Tu t'achètes une paire de lunettes de soleil, on veut faire que ce moment dans ta vie est important. C'est ça qui m'a fait capoter du luxe. Parce que la paire de lunettes de soleil, je n'étais pas plus belle avec les lunettes à Louis Vuitton. Mais mon expérience d'acheter une paire de lunettes à 500$ valait 500$. Mm-hmm. Mon expérience d'acheter un sac à main qui est plus luxueux, mais ce qui va arriver, c'est que la façon que je traite le sac à main est complètement différente, premièrement. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe, c'est que tous les gens qui aiment l'or, the fashion, tout ça, eux, ils voient mon sac à main, puis tout à coup, c'est un point de rapport. Oh my God, j'adore ton sac à main, je l'ai vu, j'ai failli l'acheter, blablabla. J'ai tellement trouvé de connexions artistiques avec des gens qui se reconnaissent en tant qu'artistes d'affaires, sont très connectés au luxe. Donc, ce que j'ai vu, c'est que quand je vois le luxe comme une nécessité, c'est là que je suis déconnectée de c'est quoi le luxe. Le luxe, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. C'est justement pour ça que c'est tellement puissant. Le luxe, c'est sur la fréquence du désir, c'est sur la fréquence du non nécessaire, c'est dans la fréquence du surplus. Puis quand on comprend la manifestation, c'est que tout ce qu'on a besoin, c'est attaché au manque, puis c'est pour ça qu'on ne l'attire pas sans effort. Tout ce qui est déjà dans le manque, ça ne se manifeste pas. c'est tout dans l'abondance. La manifestation, c'est sur la fréquence de l'abondance. C'est difficile d'aller chercher l'abondance quand on est dans le manque, je sais, parce que j'ai été dans le manque extrême. Mais ce que j'ai compris de la manifestation, c'est que pour co-créer avec l'univers, il faut comprendre que c'est déjà là ce qu'on veut. C'est déjà là. Puis il faut apprendre à désirer avec le cœur, pas avec l'ego, pas avec le « j'ai besoin de ça pour bien paraître » ou « j'ai besoin de ça parce que sinon je vais être ici ». J'ai vraiment tout perdu dans ma vie à un point où j'ai réalisé que j'avais pas vraiment besoin de rien. J'ai réalisé que tout ce que j'avais dans ma vie, c'était de vouloir plus. Puis quand je me suis donné le droit de vouloir plus, parce que j'ai réalisé que j'avais pas besoin de rien, j'ai compris l'abondance réelle, qui était tout ce qu'on a dans la vie, c'est parce qu'on le désire. J'ai pas besoin de rien, 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 rien. Même j'ai trouvé la plus grande joie de ma vie en dormant dans ma voiture avec le cœur brisé, avec tout perdu. J'étais capable de retrouver ma joie sans que mes circonstances changent. J'avais pas rencontré l'homme de ma vie, j'avais pas fait plus d'argent, je dormais pas dans un lit chaud, j'avais pas de repas, mon ventre gargouillait, mais j'étais capable de trouver la paix. Puis j'ai réalisé qu'on n'a pas besoin de rien. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est de faire la paix avec le désir, puis d'arrêter de se voir comme des gens qui sont mauvais ou mal de désirer, parce que c'est notre relation avec le désir qui est souvent le problème. J'ai besoin de justifier que j'en ai besoin parce que je ne peux pas juste le vouloir, mais l'univers fonctionne avec le vouloir. Le luxe, c'est quelque chose qui continue à fonctionner sans effort, même dans les temps où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, le luxe continue à bien aller. Comme j'ai acheté une voiture récemment, une voiture de luxe, puis le monsieur qui me l'a vendue m'expliquait qu'ils n'ont jamais vendu autant de voitures de luxe que de ce que cette année. Mais c'est les années où ce qu'on a le plus de misère dans le monde, mais les gens qui ont de l'argent, ils vont toujours vouloir acheter sur les choses qui sont luxe. Ça va pas changer, ça. Donc, le luxe, c'est l'abondance. Le luxe, c'est le désir. Puis le luxe, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus honnête. Parce qu'on c'est comme on fait pas semblant que c'est pas cher ou que, tu sais, souvent, quand c'est pas cher, je me fais manipuler, je vais aller acheter une voiture bas de gamme, usagée, puis je vais me faire manipuler au coton pour l'acheter. Je vais me faire dire, si je l'achète pas aujourd'hui, tout de suite, la voiture va être partie, il faut que je mette un dépôt tout de suite, j'ai besoin, je vais me faire pousser pour acheter parce que il y a tellement de peur que je vais pas acheter. Dans le luxe, c'est moi qui perds si je l'achète pas. S'il y en a juste une voiture puis que je l'achète pas, ils vont la vendre demain. Ils n'ont pas besoin de mon argent. Donc, moi, je me fais traiter comme il faut. Je me fais traiter avec du respect, mais je ne me fais jamais pousser. Je choisis ce que je veux acheter. Je suis fière de mes achats. C'est complètement une autre vibration. Donc, ce que je voulais offrir dans Alpha Femme, c'était une vibration de désir. Donc, tout ce que les gens achètent chez Alpha Femme, c'est un désir. C'est toujours le désir. Moi, je ne pousse pas les gens. On ne fait pas de marketing dans l'inbox avec les emails de pression, tout ça. On ne fait pas ça. C'est vraiment comme je veux que ce soit une expérience de luxe de venir acheter chez moi parce que je veux développer cette fréquence-là, de vraiment donner la permission, surtout aux femmes, de juste vouloir, puis que ce soit beau de vouloir des choses, de désirer sans avoir de besoin, sans créer de problèmes pour justifier qu'on a besoin de quelque chose. Moi, je veux qu'on soit indépendante dans tout. Pas besoin d'un homme, on désire un homme. Pas besoin d'argent, on désire l'argent. Pas besoin. Je veux créer un monde où on crée basé sur le désir et non le besoin. Et puis ça, c'est vraiment la fréquence d'abondance que je veux aider à créer pour les femmes qui désirent travailler avec moi.
C'est super, super intéressant. Puis j'adore cette approche-là. Ça me parle vraiment beaucoup. Ce magnétisme du désir qu'on est un peu, encore une fois, puis tu sais, moi c'est parce que mon public est très féminin aussi, là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de shaming puis de honte autour d'assumer notre désir, puis de plus en plus on est comme libre de justement comme vouloir ces différentes choses sans avoir à devoir se justifier, comme tu dis si bien. Et d'un point de vue aussi... brand, j'aime beaucoup genre que ça a été associé peut-être avec toi, avec tout ce qui est comme The Invisible Coach et de pas nécessairement se montrer à outrance, qui est une autre des tactiques que je trouve que ça rend encore plus riche, justement, t'sais, riche dans le sens richesse, ta présence dans la sphère médiatique, on va dire, là, sur les réseaux sociaux puis tout ça. Puis, c'est ça que t'appelles, je pense que c'est ça le attraction marketing, hein, le marketing d'attraction que j'avais jamais vu en discuter ailleurs. Puis c'est ça, genre, je trouve ça intéressant comme concept.
Ben, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a l'offre puis il y a la demande. Mm-hmm. Donc, le plus qu'il y a d'offres, le moins qu'il y a de demandes, le plus qu'il y a de demandes, comme là on parle. Donc, moi, ce que je voulais créer avec moi, c'était pas de constamment être en train de pousser les gens à essayer d'acheter de moi, puis de toujours être en train d'offrir quelque chose, toujours être en train d'offrir quelque chose, toujours pousser, toujours pousser, toujours pousser, puis qu'éventuellement, les gens achètent ce qui est le marketing traditionnel. Tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu fais des annonces, t'en parles sans arrêt, tu me vois partout, puis éventuellement, t'es comme « OK, c'est beau, je vais acheter quelque chose ». Moi, je voulais à la place que les gens voient ma page puis qu'ils disent « Mais c'est quoi ça? » Puis que si en regardant ce que je mets, qui est quand même assez abstrait, le feeling en dedans, c'est comme « Oh my God, cette personne-là, elle allume quelque chose à l'intérieur de moi, je veux en savoir plus », mais que c'est la responsabilité de l'acheteur de venir trouver c'est quoi qui est fait pour eux. Soit une masterclass, un programme, ou juste de rester dans ma vibe puis de lire mes posts, ça me fait plaisir aussi. Mais l'idée, c'est que je vais attirer vraiment beaucoup plus de leadership. Puis moi, c'est des femmes leaders. C'est ça qui est important aussi de savoir. Puis je pense, juste de faire un petit à côté.
Mm-hmm.
Souvent, quand les gens sont riches, on s'imagine qu'ils font leur argent sur le dos de quelqu'un.
Mm-hmm.
Puis je comprends pourquoi les gens pensent ça, parce que dans l'ancien paradigme d'affaires, c'est ça, c'est la manipulation, c'est la tactique de les riches se rendre riches sur le dos des pauvres. Quand on pense à la richesse comme ça, c'est sûr qu'on ne peut pas être fier d'être riche. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un nouveau paradigme comme ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je travaille avec des femmes qui deviennent completely successful dans toutes les sphères de leur vie. C'est des femmes qui tombent en amour puis qui sont vraiment heureuses en relation de couple. C'est des femmes qui rencontrent leur personne puis qui savent comment gérer une business, une entreprise et une relation de couple sans tout casser. C'est des femmes qui deviennent des mères plus patientes. C'est des femmes qui deviennent plus riches, bien aussi plus calmes puis plus heureuses dans leur business puis qui ont un bel équilibre. C'est des femmes qui deviennent des femmes d'affaires puis qui restent femmes, qui restent féminines. C'est des femmes qui voient la vie, qui reçoivent le luxe, qui se font traiter avec du respect, qui ont des conversations haut de gamme, qui attirent des entrepreneurs ou des employés qui sont parfaits pour elles, puis qui savent comment gérer une entreprise avec leur cœur sans se faire manipuler. C'est comme on travaille au high-end business for women. Comment être femme d'affaires sans devenir masculine puis froide pour pas se faire manipuler? Comment à la place devenir puissante en tant que leader féminine? Donc moi, je fais pas mon argent sur le dos de pauvres personnes qui savent pas quoi faire puis qui finissent par être tellement perdues que là, je prends tout leur argent. C'est vraiment des femmes qui sont déjà puissantes, qui rentrent dans mon monde, qui ont envie d'élever leur connaissance, leur compréhension de toutes ces choses-là, de la communication, la manifestation, l'argent, les relations de couple. Comment gérer tout ça? Parce que c'est énormément de pression.
Mm-hmm.
Puis de le faire toute seule, souvent quand on est entrepreneur, il n'y a personne pour être là pour nous. Donc pour moi, je me sens aussi très à l'aise de mettre ça dans le luxe parce que je sais que ce que j'offre, c'est pour des femmes qui peuvent se permettre du luxe.
Mm-hmm.
Donc je me sens aussi très bien dans ça parce que quand on se dit, on se sent un peu mal si on veut vouloir des choses, on se sent un peu, est-ce que je peux juste désirer, est-ce que je peux juste vouloir des choses, c'est aussi parce que on a eu des modèles de personnes riches qui n'ont pas créé leur propre succès.
Mm-hmm.
C'est dommage, mais quand on voit une femme riche, on s'imagine que c'est son mari qui est riche, pas elle.
Ouais.
Donc, quand on voit une femme riche avec des sacs, puis des diamants, puis des choses, ben c'est une gold digger, c'est une femme qui s'est trouvée un homme riche, qu'elle a fait rien, puis c'est l'homme qui a tout acheté. C'est pour ça que ça nous dérange souvent des femmes riches. Mais si on s'imagine une femme qui a déjà été... qui comprend la pauvreté, qui comprend c'est quoi une vie qui est difficile, mais qui a vraiment travaillé sur elle-même, qui s'est éduquée, puis qui a appris comment créer de l'argent, qui crée une business de multimillions de dollars, compagnie mondiale, puis qui s'achète un sac à main. Moi, je veux qu'on l'applaudisse, cette femme-là.
Mm-hmm.
Mais il faut qu'on change la conversation, que chaque femme, c'est une femme qui est allée chercher son sac à main dans le portefeuille de son chum. Là, c'est pour ça qu'on voit ça comme c'est pas beau, puis elle n'est jamais contente, elle n'est jamais satisfaite. Elle veut plus, elle veut plus, elle veut plus. Au lieu de voir une femme qui crée de l'abondance partout dans le monde, puis qui est reconnaissante à chaque jour, moi, une autre partie de cette abondance-là, c'est que ça a changé ma vie de voir. Moi, j'avais une notion préconçue, si on veut, des personnes riches, parce que je m'imaginais ce que j'avais vu souvent, des personnes qui étaient très riches, qui avaient du generational wealth, que soit ça venait de génération en génération, ou justement que c'était, bon, le mari qui est riche. C'est que ça vient jamais vraiment je me souviens d'avoir eu une amie qui était très, très riche, qui montrait sa maison. Puis ça, la façon qu'elle me montrait sa maison, je me disais, mais ça n'a pas d'allure. Comme, elle n'est pas impressionnée. Elle n'est pas en train de virer folle. C'est tellement beau ce qu'elle me montre. Elle était comme, en tout cas, ça, c'est notre autre salle de bain. Puis ça, c'est ça. Mais elle me parlait de ça comme si c'était rien. Puis ça, ça me dérangeait. J'étais comme, t'as tellement tout au monde. Comme, comment est-ce que tu peux ne pas être en train de bouncer off the walls? Je pense que c'est une autre affaire qui dérange beaucoup les personnes qui travaillent très fort pour leur argent, c'est de voir des personnes qui sont tellement riches puis qui prennent beaucoup de leur richesse pour acquis. Donc, une autre partie d'Alpha Femme, c'est que c'est souvent des femmes qui sont self-made, qui ont créé leur succès. La gratitude que je ressens à tous les jours de ma vie, c'est sans arrêt. Tout le luxe que je vis, moi, me fait capoter. J'achète un sac à main, je dois prendre 500 photos de mon sac à main. Dans plein de lumières différentes, dans plein d'affaires différentes. Mon sac à main à côté de mon café. Mon sac à main à côté de mon verre d'eau le matin. Oh mon Dieu, mon sac à main à côté de ce chandail-là. Attends, faut que je prenne une photo. Je suis complètement en gratitude pour tout ce que j'ai. Tout le luxe que j'ai, ça, je suis en gratitude profonde pour tout ce que j'ai. Donc, c'est aussi le luxe qui active la gratitude. C'est un luxe qui est très différent qu'un luxe qui est éphémère, qu'on est constamment en train d'essayer d'aller chercher, qu'on est constamment, c'est jamais à la hauteur, c'est jamais assez. Ça essaie de combler un vide pour essayer de bien paraître, comme c'est totalement une fréquence différente que celle que j'enseigne puis celle que j'incarne. Donc, je pense qu'à un certain niveau, il y a aussi de dire, est-ce que c'est possible que des façons inspirantes d'être connecté au luxe, à l'argent, à l'abondance, puis des façons qui ne sont pas inspirantes? Mais moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a juste plusieurs façons, puis on n'est pas éduqué à toutes les façons qu'on peut être riche, abondante et en gratitude de la vie qu'on a. Parce qu'il y a une notion préconçue, une façon de voir les gens riches, puis une façon de voir le luxe, l'abondance, que des fois, c'est justement, c'est trop, c'est pas nécessaire. Il y a personne qui a besoin de ça. C'est comme, non, c'est vrai. Puis c'est de comprendre ça pendant qu'on va le chercher en disant, je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'aucun des luxes que j'ai dans ma vie. J'ai dormi dans ma voiture en plein hiver avec rien. Je sais que j'en ai pas de besoin. Mais quand ça m'allume, puis je suis capable de ressentir de la gratitude pour tout dans ma vie, et que ça, c'est une des choses qui m'allume puis qui me rend tellement heureuse, pourquoi est-ce que je vais me sentir mal à l'aise de ça? C'est une chose qui existe sur la planète, c'est une belle chose. C'est des artistes qui ont réussi à se faire développer puis à se faire connaître en créant des marques qui sont uniques puis qui sont belles. C'est quoi le problème? Mais si l'énergie est belle, il n'y en a pas de problème. Si l'énergie n'est pas belle, c'est l'énergie le problème. Pas le luxe, pas la richesse, mais l'énergie ou la façon d'être des personnes qui le font d'une manière non alignée.
Puis je pense que ça réconcilie aussi avec toute cette conversation en ce moment avec les privilèges, tu sais, puis comment des fois les gens, ils se... Tu sais, j'ai beaucoup aimé ce que tu parles à propos du entitlement, tu sais, de se sentir comme, oh non, mais... Genre, voici comment les choses sont. Puis je pense que même beaucoup de gens qui ne sont pas dans le luxe vivent dans l'entitlement. Tu sais, même juste ici au Canada ou dans les pays développés dans lesquels on vit, on réalise pas les nombreux privilèges pour lesquels on pourrait être grateful, justement. Puis comme tu dis, tu sais, techniquement, on sait pas c'est quoi le vrai manque, je dirais, alors qu'on reste dans cette mentalité de manque, tu sais. Puis d'être capable de créer l'abondance. Penses-tu que tout le monde peut faire ce switch mental ou plus énergétique de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je décide de créer une vie plus luxueuse dans ma... Tu sais, comme, ne serait-ce qu'au point de vue, voici, tu sais, ce que je veux comme créer comme expérience pour mes clients ou le type de vie vers lequel je veux aspirer.
Mais ça, c'est vraiment une bonne question que tu me poses. Parce que je pense que tout le monde a le potentiel de le faire, mais ce que ça prend pour le faire, je pense que c'est pas tout le monde qui veut le faire. Mm-hmm. Parce que il y a plusieurs façons que j'ai vu que les gens sont devenus vraiment riches dans mon monde, moi, mes clientes. Pour certaines personnes, ce qui est vraiment arrivé, c'est qu'ils ont tout perdu. Puis après, ils ont réalisé à quel point ils sont capables de vivre avec rien. Puis on fait le choix de vivre dans l'abondance. Mm-hmm. Quand on est sur une ligne qui a un feeling qui est comme médiocre, et ça, c'est la majorité de la population dans l'Amérique du Nord, c'est qu'on n'est pas dans le déficit complet et total, qu'on manque d'eau potable puis que c'est l'enfer. On est juste dans une situation où l'argent, on manque d'argent plus vite qu'on manque de mois. Comme la fin de l'argent arrive avant la fin du mois. Mm-hmm. On roule sur l'endettement, on roule sur les cartes de crédit, on roule sur toujours juste un peu pas assez. Mais pas assez pour dire qu'on n'est pas capable de manger nécessairement ou que c'est vraiment, vraiment mauvais. La majorité de la population est dans le milieu où c'est juste pas le fun. C'est juste énormément stressant. C'est des gens qui travaillent vraiment fort pour avoir juste assez, pour pas avoir assez, pour mm-hmm. avoir un roulement de dette qu'on paye en intérêt à chaque année, puis on se demande comment un jour on va pouvoir sortir de cette rat race où est-ce qu'on va arrêter de payer des intérêts sur de l'argent de quelque chose qu'on a acheté il y a 20 ans. Puis tout est stressant. C'est un monde où on essaie d'être libre. Donc, dans ce monde-là, d'essayer de créer de l'abondance juste pour le plaisir, c'est comme un concept qui fait aucun sens. Et c'est dérangeant de savoir qu'il y a des gens qui vivent ça quand nous, on est pris dans, mm-hmm. dans cette trap. Comme moi, je peux pas me sortir de ça. Mais toi, tu vas te créer de l'abondance parce que tu en veux, puis tu vas aller acheter un sac à main qui te coûte plus cher que mon loyer. Comme t'es qui, toi, pour vivre une vie comme ça pendant que moi, je vis une vie comme ça? Mais ce que j'ai dû passer à travers pour être capable d'aller chercher ce que j'ai, par exemple, c'est beaucoup en bas de ce confort-là. Parce que j'ai déjà été dans le confort de l'inconfort. Ça, c'est l'inconfort qu'on connaît. Mm-hmm. On n'a pas vraiment assez d'argent. Il faut choisir quelle marque de biscuits qu'on choisit parce que la pièce, elle fait la différence. On ne l'achète pas cette semaine, ça va être pour la semaine prochaine. Est-ce que c'est en rabais? Non, OK, non, pas pour cette semaine. On ne peut pas faire de voyage, pas cette année, pas l'autre d'après, pas encore. Un jour, quand la carte de crédit va être clairée, quand ci va être ça, quand ça... Toujours plus tard, jamais maintenant, tout le temps stressé, j'ai déjà été là. Et c'est vraiment désagréable. Mais c'est complètement pas comparable à être dans le déficit complet et total. Le rock bottom qu'on parle, c'est quelque chose d'assez intense comme moment de vie. C'est un moment qui secoue tout ce qu'on croit. C'est un moment de comme « wow, le pire que je pouvais m'imaginer, je suis dedans ». Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'il arrive quelque chose qui est que tout ce que tu t'imagines que tu vas pas être capable de surmonter, une fois que tu le surmontes, ça l'enlève quelque chose. Ça l'enlève la petite voix dans ta tête qui te terrorise en dedans, qui te fait pas faire des grandes choses de peur que quelque chose de mal t'arrive. Quand tu viens de vivre la chose le plus mal qui pourrait t'arriver, on dirait que tout à coup, cette petite voix-là a le plus grand impact. T'es comme, mais je viens de vivre l'apocalypse, puis je suis encore correct. Donc peut-être que c'est un bon moment d'aller faire quelque chose de fou, parce que j'ai plus rien à perdre. Donc, c'est là que les gens vont souvent aller chercher un courage qu'ils n'avaient pas, parce qu'il n'y a rien sur la ligne, il n'y a rien à perdre. Quand on a presque rien, le petit peu qu'on a, on ne veut pas le perdre. Mais quand il n'y a plus rien, il n'y a rien à perdre. Donc, c'est soit qu'il faut être dans une situation comme moi, où les circonstances font en sorte qu'il n'y a déjà plus rien, so we might as well go all in, there's nothing left. Mm-hmm. Mais ce que moi, je vois, ce qui m'impressionne le plus, c'est les clientes que j'ai qui sont prêtes à mettre toutes sur la ligne. L'inconfort est encore plus stressant, le confort, comme ça mm-hmm. va bien. Tout mm-hmm. est correct, ils n'ont pas de dettes, sont corrects, puis là, ils vont se mettre dans une situation comme stressante pour aller apprendre des choses, puis c'est gros, puis c'est énorme, puis c'est comme « wow ». Eux, ils m'impressionnent. Ça, je suis comme « hey ». Je ne sais même pas si moi, je l'aurais faite. Je pense que j'aurais resté toute ma vie dans le médiocre. J'aurais même pas su comment me mettre par choix dans une situation comme ça. Donc, pour devenir une personne qui est vraiment successful dans toutes les sphères de sa vie, ce que j'ai compris puis ce que je vois à tous les jours en travaillant avec mes clients, c'est que l'énergie, c'est quelque chose qui se développe ou qui se stretch des deux côtés énergétiques. Ça veut dire que le plus que tu montes, le plus qu'il faut que tu sois capable de descendre dans ton énergie. Quand tu penses à une personne qui est très, 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 très émotive, c'est une personne qui ressent des émotions très, très fortes vers le haut et des émotions très, très fortes vers le bas. Puis si on veut gérer les émotions, il n'y a pas rien qu'on peut prendre qui fait juste enlever les émotions négatives. Ce qu'on prend, ça l'enlève le haut et le bas. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Pour vivre des énormes hauts, de vivre une vie de rockstar, de vivre une vie où ce que l'argent, c'est sans limite, il faut être capable de tenir un fond énergétique que la majorité des gens sont aussi pas capables de tenir ou ne veulent pas tenir, tout simplement. Mm-hmm. Donc, c'est de se dire, moi, je veux vivre une vie qui est au-delà de ce que la majorité des gens vont vivre, mais je suis prête à vivre quelque chose intérieurement de stress ou de peur ou de mal ou de qui est plus gros que ce que les autres vont vivre. Même quand on pense à des célébrités qui deviennent famous, mais c'est merveilleux, sont riches, ils vont bruncher dans les restaurants les plus hot de Hollywood, mais leur face est partout sur les magazines. Ils se font moquer d'eux autres à chaque fois que ça va pas dans une relation de couple. S'ils ont un bouton, c'est la page couverture du magazine. Ils se font complètement déchirer par les médias. C'est, leur système nerveux est constamment sur attaque. Ils se font attaquer à longueur de jour. Ils ont peur de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils sont. Pour tenir ça, mais pour avoir une vie de rockstar, est-ce que ça vaut la peine? Pour certaines personnes, ça vaut pas la peine du tout. Mm-hmm. C'est d'essayer de voir, même dans la richesse, il y a un flip side. Tu vas être riche, mais tu vas pas être compris. Tu vas être riche, mais tu vas être jugé. Tu vas être riche, mais est-ce que tu es prête à retenir le « mais » Puis moi, ce que j'aide les femmes à faire, c'est de devenir riche tout en étant correct avec les « mais ». Les gens qui sont pas contents, les gens qui ont des jugements, sans se chicaner avec eux, sans perdre toute leur puissance, puis sans se défaire de la belle qualité de vie qu'ils ont créée parce qu'ils sont tellement fâchés des gens qui les comprennent pas. C'est comme d'essayer de vivre en paix avec le fait que certains gens font certains choix, puis que même le luxe vient avec un flip side. Même l'abondance vient avec un flip side. Même le succès vient avec un flip side. Il faut toujours être capable de tenir les deux côtés de la médaille. Sinon, ce qu'on voit, c'est des femmes qui travaillent très, très fort pour avoir beaucoup de succès puis qui font des burn-out. Fait qu'il faut être capable de tenir les deux côtés. Moi, ce que je pense, c'est que tout le monde est capable d'être riche. Tout le monde est capable d'être bien. C'est l'autre côté que les gens ne veulent pas tenir. Donc, ils vont choisir une vie qui est beaucoup plus simple, comme une vie, si on veut, presque médicamentée énergétiquement, qui va enlever le haut et le bas pour être capable de mieux gérer les émotions qui viennent avec la vie de tous les jours. Puis ceux qui sont prêts à vivre des extrêmes, il faut qu'ils soient prêts à tenir le côté plus difficile de la chose. Puis pour certaines personnes, ça vient avec la faillite, ça vient avec des choses qui sont plus difficiles. Mais pour aller chercher la gloire, des fois, ça fait mal. Les athlètes, les Olympiens, tout ça, ils ont plus mal au corps que tous ceux qui ne sont pas capables de courir 100 km en combien de minutes. C'est, on a toujours un autre côté énergétique de la médaille, toujours.
Oui, puis c'est de savoir quel type d'expérience humaine on veut avoir au niveau de ce range, mais de ce range d'expérience aussi.
Totalement. Puis c'est de voir comme il y a tellement de personnes qui sont juste heureuses avec ce qu'ils ont. Puis c'est tellement beau à voir. Moi, je me suis même dit en regardant les gens autour de moi pendant que je deviens successful, de voir des gens qui sont comme moi, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, là, ce qui me rend vraiment heureuse dans ma vie, c'est je me lève le matin, mes enfants sont là, mon mari va travailler, je passe ma journée avec mes enfants, ou j'organise ma maison, tout ça, je médite, je fais mes affaires, mon mari revient à la maison, mes enfants reviennent, on passe la soirée en famille, je me couche, je fais ça, c'est ma vie. Je veux rien de plus que ça, puis je voudrais jamais échanger ça contre rien. Puis je suis comme, c'est extraordinaire. Puis après ça, j'ai d'autres femmes qui me disent, je sais pas pourquoi, mais c'est juste, je rêve de d'autres choses. Je veux voir la terre. Je veux goûter à tout. Je veux voir tout. Je rêve d'aller à cette place-là, puis de parler avec ce genre de personnes-là, puis d'avoir le genre de conversation comme ça. Puis je rêve d'être comme ci, puis comme ça. C'est merveilleux. Je veux juste voir un monde où on peut tout être vraiment émerveillé par les désirs purs de chaque être humain, sans juger. Parce que oui, c'est vrai que dans le passé, il y a des personnes qui ont fait des pas belles choses parce qu'ils étaient empoisonnés par le désir sans arrêt de vouloir plus, pis ci, pis ça. Mais je pense que comme n'importe quoi qui peut évoluer sur la planète, le luxe, le désir, le succès, ça peut aussi évoluer. Puis c'est une des belles missions que j'ai dans ma vie en ce moment, c'est d'aider les gens qui veulent devenir successful à le faire d'une façon qui est bonne pour nous, pour les gens autour de nous, puis pour le monde.
Love that. J'adore. Puis c'est une excellente façon de terminer cette entrevue. Si les gens veulent en savoir plus, justement, veulent te suivre, veulent entendre tes paroles, parce que j'ai trouvé notre conversation vraiment inspirante, comme d'habitude. Là, tu fais des excellents Facebook Live non-stop sur tes pages Facebook et Instagram. Peux-tu juste nous rappeler où on peut te trouver?
Donc, moi, c'est vraiment les réseaux sociaux. Même jusqu'à maintenant, j'ai pas un site web. Je veux vraiment que les gens viennent me trouver, viennent me parler, viennent être dans mon monde au lieu d'essayer de comprendre qui je suis sur un papier. J'ai jamais été capable de rien comprendre sur un papier, donc je vais pas commencer à essayer de m'expliquer moi-même sur un papier maintenant. Mais mon Instagram, c'est Alpha Femme. J'ai aussi mon compte Mélanie Ann Layer sur Instagram. Puis sur Facebook, c'est Mélanie Ann Layer sur Facebook, juste ma page personnelle. Puis mon groupe Alpha Femme aussi sur Facebook.
Magnifique. On va mettre tous les liens pour que les gens puissent aller s'inscrire et s'abonner. Et je vais peut-être te poser la dernière question avant qu'on se quitte. Parfait. Toi, ton désir, là, maintenant, il a l'air de quoi?
Moi, à tous les jours, je désire vivre en sachant que c'est possible pour moi de continuer à évoluer. Donc, il n'y a pas un plus que j'essaie d'avoir. Je suis tellement reconnaissante avec la vie que j'ai, je n'essaie pas d'aller chercher plus. Ce que je désire, c'est le sentiment constant d'évolution dans ma vie. Je ne veux pas arriver à un moment où je regarde en arrière et je me dis « Ah, quand j'étais jeune, je faisais vraiment des grandes choses. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment fait des belles choses. » Je veux juste que tout au long de ma vie, à chaque jour, je sais que je suis en train de contribuer à l'évolution de ma vie, de la planète, du bien-être des gens. Donc, c'est ça que je vois pour moi. Maintenant et plus tard, c'est une vie où chaque jour, je me lève en sachant que je suis en train de faire quelque chose qui est bon pour aujourd'hui, pour plus tard, pour moi, pour vous, pour nous, pour le monde.
Magnifique. Mélanie, c'était absolument une joie de t'entendre parler de ce sujet, que je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui discute en profondeur et avec autant de réflexion que ce que tu as amené là, aujourd'hui, mais aussi dans les contenus que tu partages. Donc, un grand, 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 grand merci d'être venue sur l'Ambition féminin. Et ben, je te souhaite vraiment comme le meilleur pour tout ce que tu es en train de créer.
Ça me fait tellement plaisir. Merci de m'avoir eu sur ton émission. Tatiana, ça m'a vraiment fait plaisir de te rencontrer. Puis merci pour tes beaux mots. Ça me fait vraiment plaisir.
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!